entreprise.
Bonjour à toutes et tous, c'est la reprise de Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz en Périgord Noir sur Radio Plaisance et sur la toile mondiale sur www.radioperigueux103.org. Aujourd'hui, on va avoir l'immense honneur d'avoir Farid par téléphone. Comme la dernière émission date de fin juin, eh ben ça tombe bien. Et voilà, donc, de CSF. Donc, bonjour Farid.
Bonjour Alexia, bonjour à toutes et à tous. Bien oui, CSF, en fait, il faudrait préciser. CSF, ça veut dire Cannabis Sans Frontières. C'est pas que le club des super fauchés.
Oui, j'avais fait exprès. Hein.
Donc Cannabis Sans Frontières, c'est une petite organisation, une initiative citoyenne qui a démarré au moment des élections européennes sous la forme d'une liste qui s'est présentée donc au suffrage en Île-de-France pour les élections européennes. Et donc pour la première fois, on va dire historiquement, il a existé en France un bulletin de vote intitulé Cannabis Sans Frontières, alternative écologique. Et donc on a fait bon un score très modeste, on a fait 3988 voix, mais on a fait aussi une campagne somme toute très modeste et claire, puisqu'on a fait seulement 4 semaines de campagne. Officiellement, on a lancé la liste le 9 mai, et le 7 juin, eh bien, on était dans les urnes. Et pour le coup, on invitait les gens à imprimer eux-mêmes leur bulletin de vote, et on a essayé d'en diffuser... d'en faire imprimer et d'en diffuser un maximum. Mais voilà, c'est simplement pour relativiser notre score, pour dire qu'on a eu extrêmement peu de moyens de communication. Et c'est justement là où le bât blesse, c'est qu'en France, généralement, le débat est piégé sur la question des drogues, puisque la loi déjà interdit de présenter sous un jour favorable l'utilisation de substances classées au tableau des stupéfiants. Et puis surtout, on a une espèce de d'omerta désormais très connue en France où sur le thème des drogues et en particulier du cannabis, on aurait juste le droit de dire du mal, de montrer, on va dire, les aspects négatifs, s'ils existent,
hein, s'ils existent déjà.
Et de surtout d'en rajouter dans le mensonge et dans l'hypocrisie, alors que la réalité est tout autre. Et donc voilà, Cannabis Sans Frontières, ça s'est constitué de manière à poser dans le débat public un certain nombre de questions et de faire en sorte que ce débat public puisse exister, au moins sur ces questions liées à la problématique des drogues, en sachant que, juste pour donner quand même quelques idées sur l'ampleur du phénomène, en France, on est les premiers consommateurs au monde d'anxiolytiques légaux, d'antidépresseurs produits par les industries pharmaceutiques. Et dans le même temps, on a aussi ce triste record d'être l'une des populations en Europe qui a la population la plus jeune consommant de manière massive du cannabis, donc des substances illégales. Et on partage ce record avec les Tchèques et les Anglais. Et en fait, il s'avère que dans un pays où la répression est aussi forte, en France, eh bien, on observe que finalement, la répression ne produit aucun résultat concret positif, mais au contraire, justement, des tas d'effets délétères.
Bah, toute répression, oui.
Dont celui, le premier effet, c'est on va dire, diaboliser le cannabis à outrance. Et puis finalement, ben, on s'aperçoit que les jeunes consomment de plus en plus jeunes en France du cannabis, ce qui pose une vraie question de santé publique. Mais face à cette réalité, plutôt que de continuer avec des messages répressifs qui n'ont aucune pertinence, il faudrait peut-être mieux commencer à changer, on va dire, de vision sur le problème. Et c'est ce qu'a fait récemment Daniel Vaillant, l'ancien ministre de l'Intérieur, en se positionnant publiquement en faveur d'une légalisation, ou en tout cas d'une sortie de la répression simple et brutale de la consommation pour essayer d'avoir une politique plus pragmatique et plus réaliste.
Et donc c'est forcé d'avoir pour faire entrer le cannabis dans le débat public, justement, de faire ça par bulletin de vote.
Oui, c'est ça, c'est de faire en sorte de montrer qu'aujourd'hui, les usagers de drogue, quels qu'ils soient, existent. Ils ne sont pas ni moins dignes, ni moins légitimes que ceux qui nous considèrent comme des criminels ou des délinquants ou des malades. Que ces gens-là, usagers de drogue, aujourd'hui, sont gravement menacés sur le plan de leur liberté individuelle par tout un tas de choses qui sont écrites dans la loi et qui font d'eux justement des personnes qu'on peut arrêter comme des terroristes au petit matin. Je vous signale quand même que les lois anti-drogue françaises sont au même titre que les lois antiterroristes, c'est-à-dire que quelqu'un de suspecté pour trafic pourrait être amené à faire une garde à vue de 96 heures. Et même des violeurs n'ont pas le même type de traitement qu'une personne qui serait considérée comme un trafiquant. Et c'est là où c'est extrêmement grave, c'est qu'on mélange tout et qu'on en fait justement du chiffre. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on commence à ressentir au sein de la police un certain ras-le-bol par rapport à cette logique de la statistique. Et en effet, avec Cannabis sans frontières, l'idée, c'est non seulement d'intervenir dans le champ électoral, donc de permettre aux citoyens d'exprimer un avis, une opinion sur ces questions grâce à ce bulletin de vote, mais c'est aussi de mener des campagnes de sensibilisation et d'information. La dernière en date, c'est celle qu'on a décidée au mois de lors de l'université d'automne à Paris, début novembre, et qui s'intitule sur le thème du cannabis thérapeutique, avec la mise en place d'un secours vert pour justement venir en aide à ces personnes qui utilisent le cannabis à des fins thérapeutiques, qui sont des personnes atteintes de maladies graves, pour lesquelles parfois il n'existe aucun traitement, si ce n'est des soins, on va dire, antidouleurs à base de morphinique, et pour certaines personnes, eh bien, les traitements sont plutôt très lourds et inutiles. Certes, ils permettent d'atténuer la douleur, mais ils ont tout un tas d'effets secondaires indésirables. Et avec le secours vert, en gros, on veut venir en aide à ces personnes qui sont atteintes de maladies graves, je le rappelle, comme la sclérose en plaques, qui sont atteints du sida et qui sont sous tri ou quadrithérapie et qui, grâce au cannabis, peuvent avoir plus d'appétit et peuvent mieux supporter leur traitement. Ça peut être aussi des personnes atteintes de la maladie de Crohn, de certains troubles psychotiques. Et tous ces cas, aujourd'hui, remettent en cause le dogme de la prohibition. Et aujourd'hui, il y a urgence à venir en aide à ces personnes parce que, quelque part, de notre point de vue, à Cannabis sans frontières, on estime que le législateur, en maintenant l'interdit, en maintenant cette situation dans laquelle ces personnes sont, gravement malades et ne pouvant pas avoir recours au cannabis, le législateur est quelque part coupable de non-assistance à personne en danger. Il est coupable, le législateur, logiquement, je ne le juge pas, je ne suis pas juge, mais vis-à-vis de la situation de ces personnes, quand j'entends ces témoignages, quand je vois la vie de ces personnes, si je prends l'exemple de Olivier Astegiano, atteint de la sclérose en plaques, qui s'est fait arrêter comme un malfrat avec une quinzaine de gendarmes qui ont débarqué à son domicile à 6h30 du matin.
Sur délation, il faut le dire aussi. Sur délation aussi, il a
oui,
été...
Oui, en plus, oui, voilà.
Voilà.
C'est quelqu'un qui était bien connu par ses voisins pour avoir, on va dire, sa petite culture intérieure, son jardin secret chez lui. Et en fait, bon, c'est pas pour faire du trafic, c'est simplement pour,
se soigner.
Produire son médicament. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au juge, rendez-moi mon médicament, c'est vital. Et en l'espace de quelques semaines après son interpellation, on a vu son état se détériorer. Avoir plus de douleur, avoir plus de fièvre, être plus anxieux, être plus tendu, avoir des difficultés à se mouvoir, enfin voilà.
Et ça, ce n'est pas par dépendance justement cannabique, mais parce que justement, quand on souffre d'une maladie grave comme ça, ça estompe les effets secondaires des traitements de choc et ça détend aussi au niveau des muscles, ça redonne de l'appétit, ça fait dormir quand on devient insomniaque avec tout ce qui est corticothérapie, chimiothérapie et tout ça.
Ouais.
Et donc, ce n'est pas par manque, justement.
Là, tu mets le doigt sur un mot qui me paraît un peu bizarre quand on parle du cannabis, c'est que justement, ce serait une drogue, un psychotrope,
voilà, ouais,
qui produirait le moins de dépendance, hein, beaucoup
oui,
moins que
fait.
Le tabac avec la nicotine, beaucoup moins que le pavot ou l'héroïne ou la cocaïne, beaucoup moins que sans doute l'alcool, et c'est même sûr.
Ouais.
Et quand tu parles de dépendance au cannabis, on pourrait dire que la dépendance, elle est beaucoup plus psychique, psychologique que physique.
Non,
et pour le coup, si on connaît bien le cannabis et qu'on avait justement accès à du cannabis de qualité, on pourrait s'apercevoir que justement, c'est sans doute la drogue la plus facile à gérer. Et une récente étude a justement démontré que pour tout un tas de personnes qui étaient dépendantes à d'autres drogues, que ce soit l'héroïne, l'alcool, le tabac, eh bien le cannabis leur a permis justement de leur dépendance. Alors après,
tout
certains vont dire oui, mais c'est en rajoutant une autre dépendance. Eh bien, c'est ceux qui connaissent très mal le cannabis. Et en tout cas, jusqu'à présent, dans le système de la prohibition depuis 40 ans, eh bien, on a connu que du mauvais cannabis et que les aspects, on va dire, négatifs du cannabis. Alors que, justement, si on retournait dans l'histoire de l'humanité, si on retournait il y a 3, 4, 5 000 ans en arrière, on s'apercevra que le cannabis était une des plantes essentielles de la pharmacopée chinoise, de la pharmacopée indienne, et que pour tout un tas de problèmes, maladies, eh bien, cette plante, les recours, les vertus thérapeutiques de cette plante étaient reconnues. C'est seulement depuis il y a 40 ans qu'on a mis une espèce de voile, on va dire, morale sur cette question de l'utilisation de psychotropes.
Toute médecine alternative, d'ailleurs, au lobby pharmaceutique, si j'ose dire, quoi.
Ça, c'est aussi la thèse d'un certain nombre de personnes qui dénoncent les travers, les effets négatifs de la prohibition. C'est que quand on analyse sérieusement l'histoire de la prohibition des drogues, si tu me permets de faire un petit rappel historique, déjà on est en 2009 et les Français devraient savoir que depuis, en fait, la prohibition a 100 ans. En 1909, c'était la première fois que a été rédigé, on va dire, un traité international, bien avant que les Nations Unies existent, bien avant la Société des Nations. C'est le traité de Shanghai, donc en Chine, où il y a 9 pays qui s'étaient réunis, dont la France, dont le Royaume-Uni, dont les États-Unis, et y compris la Chine et la Russie et l'Afghanistan. Je me souviens plus du 9e, mais je crois qu'il y avait le Canada et l'Australie. Et en 1909, on a mis en place le premier traité international pour contrôler et donc interdire le commerce de l'opium. Et en fait, tout est parti de là. En 1937, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, au moment où en fait la prohibition de l'alcool avait montré à quel point elle pouvait justement générer plus de problèmes que d'en résoudre. Bon, c'est bien connu en France, on parle de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, on se souvient de des incorruptibles, de ce film retraçant la lutte impitoyable contre les gangsters et au premier rang desquels Al Capone. Et donc dans ces années 30 aux États-Unis, on a interdit la culture du cannabis. Au même moment que Dupont de Nemours découvrait la fibre textile synthétique, le nylon, et en l'occurrence, la thèse voudrait que on a interdit le cannabis, d'une part parce que c'était une plante qui nous permettait de faire tout un tas de choses, et en particulier du textile, du papier et bien d'autres choses, et entre autres des médicaments. Et pour assurer l'essor de l'industrie pétrochimique, des intérêts de cette industrie pétropharmaceutique, eh bien, on a interdit le cannabis. Et depuis, on vit dans l'hérésie totale. Alors, le vrai traité international qui institue les stupéfiants, c'est celui de 1961. À cette époque, je rappelle que pour le commun des mortels, 1961, c'est le mur de Berlin qui se construit. C'est la guerre froide qui arrive quasiment à son apogée avec cette menace entre deux blocs Est et Ouest, soviétique et américain.
Oui.
Et pourtant, en 1961, tout le monde, main dans la main, la France, la Russie, la Chine, les États-Unis, signent ensemble ce traité international pour bannir un certain nombre de substances et de plantes, en particulier la coca, en particulier le cannabis. Et depuis 1961, on a un tableau des stupéfiants qui donc régit le contrôle international des stupéfiants. Et alors, logiquement, ce contrôle devrait se faire pour des fins médicales, médicinales,
oui.
Mais on observe que depuis 1961, le cannabis est considéré comme une substance, le THC est considéré comme une substance n'ayant pas d'intérêt thérapeutique, et c'est avec cette hypocrisie et ce mensonge que l'on vit depuis plus de 40 ans maintenant.
Bah oui, c'est ça, parce que en parlant d'hypocrisie, moi c'est pareil, comme moi je suis malade aussi. Donc je me rappelle d'un neurologue à Paris où j'avais dit où en est la recherche par rapport au cannabis thérapeutique. Et il m'avait dit pourquoi vous fumez? Puis alors moi je réponds comme une gamine, non. Et il me dit si vous arrive par hasard d'avoir un joint entre les mains, dit-il, n'est-ce pas? Il me dit, ça peut pas vous faire de mal, bien au contraire. Vraiment, bien au contraire. Mais moi, en tant que médecin, non, il n'était pas trop cool, mais bon. Mais il me dit, moi, en tant que médecin, je peux pas vous dire. Je n'ai pas le droit de vous dire.
Je ne peux
pas
vous l'interdire.
Ben, après, ça vaut risque et péril, hein.
Est-ce qu'il aurait accepté de te prescrire du cannabis
non.
en tant que médecin?
Non.
Parce que en faisant ça, c'est vrai que il faisait un coup d'épée dans l'eau. Il aurait pu très bien écrire en tant que médecin, je considère que mademoiselle atteinte de telle maladie peut avoir besoin du cannabis pour se soigner. Ne serait-ce que pour un contrôle policier, ça peut quand même les mettre parfois mal à l'aise. Hein. Moi, j'ai un témoignage d'une amie qui s'est fait faire ce type de prescription qui n'a aucune valeur hein,
juridique.
En France, le cannabis est encore interdit, mais ça met quand même un peu plus les glandes à la police quand une personne atteinte d'une maladie grave lui dit ben regardez, même mon médecin entre guillemets me soutient par rapport à ça.
C'est ça.
Bon, cependant, le témoignage que j'ai, c'est que pour le coup, la police a toujours pris quand même le matériel de cette personne, son bout de shit ou son pochon de bœuf, alors qu'elle leur disait, mais écoutez, c'est mon médicament, quoi.
C'est
mais bon, voilà, quoi. La loi est comme ça en France et il faut se mobiliser aujourd'hui. Il y a urgence. Il est intolérable, inacceptable, inadmissible, et je dirais même criminel en France de laisser autant de personnes. C'est quoi? C'est peut-être 10 000, 50 000, 100 000 personnes qui pourraient avoir recours aux vertus du cannabis, ne serait-ce que pour pouvoir prendre leur traitement. Je veux dire, c'est pas énorme, c'est pas pour les soigner, c'est pour leur permettre de mieux vivre au quotidien avec le traitement qu'elles doivent subir. Je pense en particulier aux personnes atteintes du cancer ou du sida, qui ont une ribambelle de cachetons à prendre tous les jours, et qui, à la longue, n'ont plus d'appétit, n'ont plus envie de prendre leur traitement, et perdent du poids, et se retrouvent dans des situations encore
très dangereuses,
plus difficiles à supporter, quoi.
Ça, c'est sûr. On va faire une petite pause musicale avec Medef in Babylon, voile au-dessus d'un nid de coucou, et on continue l'émission juste après.
Eh bien, à tout de suite.
À l'Élysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance en Périgord Noir et sur la toile partout sur www.radioperigueux103.org. Donc, nous avons encore Farid. Donc, pour parler justement du cannabis thérapeutique et même du cannabis tout court, donc membre de Cannabis Sans Frontières. Oui, on discutait par rapport justement au procès. Au pluriel qui a pu avoir ces derniers temps. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on risque en tant qu'usager de drogue, comme ils disent, alors qu'en plus on est malade, si je puis dire.
Alors, logiquement, le juge n'est pas censé faire la distinction entre une personne malade et une personne qui ne le serait pas.
Il faut la faire d'ailleurs ou pas cette distinction?
Le juge est là pour appliquer la loi et la loi, elle est la même pour tous. Ouais. La loi, actuellement, c'est pour simple usage, ce serait un an de prison avec une amende de 3 750 €. Voilà à peu près le risque maximum que l'on a. Mais alors, dans les différents cas qu'on a vus en France, en fait, il y a des jurisprudences qui font figure de loi. Et par exemple, si la loi, elle dit clairement qu'il est interdit de produire du cannabis, qui plus est, il est interdit de produire du cannabis en bande organisée, logiquement, dans la loi, quand on produit du cannabis et qu'on est en plus en bande organisée, c'est-à-dire deux ou trois sur cette plantation, par exemple, eh bien, logiquement, c'est la cour d'assises dans la loi française. Ouais. Et alors, bon, la jurisprudence fait que on a évité de surcharger la cour d'assises parce que déjà, elle a du mal à juger les violeurs et les meurtriers. Mais donc pour les producteurs, on leur réserve le tribunal correctionnel. Et là, dernièrement, on a pu voir des jugements assez assez durs. Si je prends le cas, par exemple, de notre ami Olivier Astegiano, dont je parlais tout à l'heure, un monsieur atteint de la sclérose en plaques qui dit au juge « Rendez-moi mon médicament, c'est vital ». et qui aujourd'hui a été condamné. Alors bon, il a un certificat établi par son neurologue qui reconnaît que Olivier utilise le cannabis et que cela peut représenter un avantage positif par rapport à sa maladie. Malgré ça, le juge a estimé que Olivier non seulement devait être privé de son matériel de culture, mais en plus devait être condamné à une amende de 150 euros. Il n'a pas osé lui condamner à une peine de prison avec sursis, mais par contre ça c'est arrivé, la peine de prison avec sursis, pour un autre cas d'ailleurs jugé au tribunal de Périgueux.
Donc
c'est un appel à toutes les personnes qui entendent cette émission là à l'instant. Ouais. Vous avez dans c'est un de vos voisins, une personne atteinte de la maladie de Crohn, une maladie dont on n'a pour le moment aucun traitement, et qui donc avait sa petite culture de cannabis, qui s'est vu interpellé comme un dangereux terroriste devant sa fille arrêtée, emmené en garde à vue avec sa femme. Ah. Voilà. On lui a détruit sa plantation, bien entendu. On lui a saisi son matériel. Et ce monsieur, atteint de la maladie de Crohn, a été condamné à 15 jours de prison avec sursis et 300 euros d'amende. Alors, certains me diront « Ah oui, mais c'est pas grand-chose.
Ben, » si.
Cette personne est malade. On lui a fait subir déjà une garde à vue. On lui fait subir le stress de la saisie de ses plantes et de son matériel de culture. On lui fait, pour le coup, subir un grave dommage financier, matériel. Et en plus de ça, comme pour Olivier, comme pour d'autres cas, en l'espace de quelques semaines, son état de santé s'est détérioré. Et n'ayant plus son matériel de culture, eh bien, il a recours au marché illégal, a du shit frelaté, et ça ne l'aide pas. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est de voir qu'en France, il y a à peu près 2000 personnes chaque année qui sont condamnées, non seulement parce qu'ils utilisent du cannabis, mais parce qu'ils l'utilisent et le transportent, parce qu'ils l'utilisent et le cèdent à quelqu'un. Enfin bon, les stupéfiants, la question des drogues, c'est le nec plus ultra pour les statistiques de la police, pour permettre de renforcer ce sentiment d'insécurité, pour dire voilà, il y a des méchants dealers partout et il faut les combattre. Et concrètement, bah, ça permet d'arrêter à tour de bras et de condamner à tour de bras. Et quand on voit les prisons surchargées, bah, on est en droit de se poser la question de savoir si justement la politique des drogues n'est pas en partie responsable de ça.
Faut les abolir, les prisons, de toute façon.
C'est un mot d'ordre plus général, mais concrètement...
Mais est-ce qu'il faut faire forcément la différence justement entre cannabis thérapeutique et cannabis tout court, quoi, pour tout ça, est-ce qu'il faut la légalisation ou la dépénalisation? Est-ce que...
Voilà. Ah bah, je vais être très clair avec toi, Alexia. Hein. À partir du moment où on veut faire une loi, il faudra légiférer et donc légaliser d'une certaine manière. Simplement, on a tendance à croire en France que légaliser, ça voudrait dire tout autoriser de partout et puis ne pas fixer de règles. Alors qu'en fait, légaliser, ça veut dire faire des lois et ça veut dire assumer que dans la loi, il y ait des droits et des devoirs, des obligations à respecter. Par exemple, on pourrait imaginer qu'une loi qui donc légaliserait le cannabis dise qu'il est interdit d'en faire la publicité. Voilà. Et ça serait maintenir un interdit et quand même dire que voilà, même si on légalise, on maintient un certain nombre d'obligations.
Ouais.
Mais concrètement, il est urgent aujourd'hui que le législateur, Monsieur Vaillant et ses collègues, décident de réformer la loi et fassent juste un projet de loi. Déjà, décriminalisant l'usage. Il faut décriminaliser l'usage. Il faut considérer que plus aucun individu sur Terre ne doit risquer la prison, ne doit risquer une condamnation à la prison ou à une grave peine, de parce qu'il a décidé d'avoir recours à une substance. Ça, c'est une chose qu'il faut... abolir, en même titre que la peine de mort doit être abolie dans certains pays. Je vous signale que dans certains pays, en Iran, en Malaisie, en Chine, la peine de mort existe pour des usagers de drogue, des gens qu'on considérerait comme des trafiquants, Et ça, c'est une réalité. Et donc, en France, il faut considérer qu'il faut dépénaliser l'usage. C'est une urgence pour mieux lutter contre le trafic et mieux lutter contre la criminalité organisée. Donc, il faut dépénaliser. Dans cette loi, dans cette légalisation, il faut que cette légalisation permette de mieux encadrer justement la production, la distribution et la consommation de toutes les substances, mais que cette loi, elle définisse des modalités, des réglementations différentes selon la toxicité reconnue des substances, et que cette nouvelle loi qui légaliserait, dépénaliserait l'usage des drogues, elle prenne dans son champ toutes les drogues, y compris le tabac et l'alcool, et que cette nouvelle politique des drogues, elle soit la plus cohérente possible par rapport à la toxicité reconnue des substances et leurs conséquences sociales, parce que pour le coup, il ne faut pas nier cela, c'est vrai que l'utilisation des drogues peut avoir des conséquences sociales importantes. Moi, je suis par exemple un enfant de parents séparés. J'ai vu mon père taper ma mère sous l'emprise de l'alcool. Et je sais que cette période de sa vie à mon père, c'était pas très reluisante, mais c'est le cas dans beaucoup de familles. Et ça, ça a des conséquences sociales graves. Et généralement, on n'en parle pas beaucoup, sauf pour pointer du doigt, on va dire, les pauvres et estimer que c'est la misère qui est à l'origine de l'insécurité, alors qu'en fait, pour le coup, si on luttait vraiment contre la misère, sans doute permettrait-on à des familles de mieux vivre et de ne pas vivre justement dans cette précarité exacerbée, dans cette loi de la jungle. Mais bon, voilà, il vaut mieux aujourd'hui parler sérieusement de légalisation, en finir avec la prohibition, et cette légalisation, elle doit en premier lieu faire apparaître la dépénalisation de l'usage, et qu'ensuite on encadre par la loi la production, la distribution et la consommation de chacune des drogues, en justement les différenciant bien. Il n'est pas le cas dans l'actuelle politique anti-drogue, puisque depuis 1961, on classe les drogues, toutes elles sont dans le même tableau, considérées au même niveau, et tout le monde le sait qu'il y a quand même une grande différence entre de l'héroïne et du cannabis, de l'ecstasy et de la cocaïne, entre de la psilocybine et du LSD.
Oui, c'est ça.
Ben, on va s'écouter un bon morceau de Peter Tosh avec Legalize It. À tout de suite.
Of instrumental, legalize it, yeah, that's the best thing you can do. For the food, good for asthma, good for tuberculosis, even humoral thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Birds eat it. Ants love it. Fowls eat it. Goats love to play with it. So you got to legalize it. And don't criticize it.
Fort et reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en périlleur noir et sur la toile d'araignée planétaire sur www.radioperilleux103.org. Et les prochaines actions de Cannabis Sans Frontières alors?
Ben écoute, nous déjà on est dans la dynamique suivante, c'est que 2010... Ça tombe bien, ça rime avec cannabis. Et donc, pour nous, 2010, c'est l'année du cannabis. C'est l'année où on doit remettre en cause la loi de 70. Elle aura 40 ans en 2010, le 31 décembre 2010.
Bonne année. Ouais.
Et en fait, on va fêter le 40e anniversaire de la loi de 70. Et on va la fêter pour l'enterrer, cette loi.
Ouais.
Et donc, on a plusieurs axes de travail. Le premier, ça va être la mise en place d'une commission d'enquête citoyenne à partir du 1er janvier 2010, qui va essayer de travailler tout au long de l'année 2010 à l'étude de la loi du 31 décembre 70 et de ses conséquences en termes de sécurité, en termes de santé, en termes de justice, en termes de pognon investi pour lutter contre la drogue. Vraiment, cette commission d'enquête citoyenne, comme son nom l'indique, ce sont des citoyens qui vont enquêter, qui vont rédiger leur propre rapport. On a eu quantité de rapports officiels. C'est ce groupe de citoyens qui va inviter, on va dire, des experts, des journalistes, des responsables politiques à venir présenter leur point de vue. Et puis, c'est cette commission d'enquête citoyenne qui va analyser et qui va non seulement produire un constat par rapport à la loi actuelle, mais qui aussi essaiera de définir un certain nombre de propositions, de perspectives pour faire évoluer la loi. On a un autre axe de travail qui va être principalement autour justement du cannabis thérapeutique.
Oui.
Parce que là, il y a urgence à faire avancer cette question. Il y a des gens qui souffrent et qui sont dans une demande. C'est aujourd'hui, c'était hier, c'est pas pour dans 10 ans. Et donc, on va essayer de faire évoluer le secours vert et puis de faire en sorte de mettre la pression sur les députés pour qu'ils adoptent une proposition de loi qui permettrait justement de d'ouvrir, on va dire, les vannes sur ce sujet.
Attends, excuse-moi, puis, je te coupe, Farid, deux secondes. C'est quoi le Secours Vert ?
Le Secours Vert, ben, en fait, c'est une initiative qu'on a prise là au mois de novembre.
Mmh.
L'idée, c'est d'apporter une aide d'urgence aux personnes malades, atteintes de maladies graves, qui ont recours au cannabis pour se soigner ou en tout cas pour atténuer leur douleur ou leur permettre de mieux accepter leur traitement. Et donc ce Secours Vert se propose d'apporter une aide financière, matérielle, juridictionnelle et documentaire à toutes les personnes qui en feraient la demande.
D'accord. Donc voilà, et puis donc il y a le site de Cannabis Sans Frontières aussi.
Alors, c'est vrai que l'essentiel, vu qu'on a peu de moyens, l'essentiel de nos activités, ça se passe sur Internet.
Bah oui, mais
on a le site cannabissansfrontières.org. On a également une télé, un vidéoblog. Et sinon, pour finir de présenter l'année 2010, hein,
oui, excuse-moi,
pour
oui.
Nous, l'essentiel, c'est d'être présent pour les élections régionales.
D'accord.
Et d'avoir un maximum de listes dans un maximum de régions et de proposer au travers ces listes, on va dire, des mesures concrètes, à la fois sur la problématique des drogues, mais pas uniquement. De parler de santé, ça nous convient, mais parler de jeunesse et de culture, on a aussi des choses à dire. De parler de solidarité internationale et de,
oui.
Et de promotion des initiatives locales qui peuvent justement permettre de sensibiliser à la protection de l'environnement, à la défense de la nature. Ça nous intéresse aussi, si on s'appelle Cannabis Sans Frontières, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement au cannabis, on est sans frontières, on veut aussi s'intéresser à ce qui se passe dans l'espace démocratique. Là, pour le coup, on est vraiment dans la dynamique de l'initiative citoyenne, de l'action citoyenne, de l'action justement d'individus qui ont envie de réagir face à l'atonie des partis politiques, face surtout au sarkozysme qui ravage à bien des endroits. Voilà.
Ah ben oui, là, oui, ça c'est sûr.
Donc il faut se mobiliser en France, voilà, et pour les élections
oui.
régionales, et pour venir en aide aux malades, et pour faire changer la loi de 70,
et pour plein d'autres choses aussi.
En finir avec le sarkozysme qui nous gave.
Oui, ça c'est clair. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou
Oui, je voudrais ajouter une petite chose là. C'est que concrètement, avec le Secours Vert,
oui.
Et avec cette campagne pour promouvoir l'utilisation thérapeutique du cannabis, quelque part, notre mot d'ordre, c'est un appel à la désobéissance civile.
Ah,
et désormais, on estime que enfreindre la loi sur les stupéfiants, c'est pas uniquement une question de délit, c'est une question avant tout de liberté d'opinion, de défense d'une liberté individuelle essentielle, justement, quand on parle d'un état de droit. Et revendiquer cela sous la forme d'une désobéissance civile, c'est une manière de nous réapproprier le droit. Et concernant justement l'utilisation thérapeutique du cannabis, par exemple, je pense qu'il y a tout un tas de manières d'utiliser le cannabis de manière, plus sécurisée et, plus saine, quoi, que simplement en mélangeant du shit avec du tabac. Je pense en particulier à la vaporisation.
Ah oui, ça a été
et donc
fait,
voilà,
ça.
C'est un appel aux gens qui s'intéressent à ces questions. C'est qu'il faut aujourd'hui promouvoir des usages de drogue qui soient à moindre risque. Et cette politique de la réduction des risques, c'est une politique avant tout sanitaire. Et là-dessus, il y a très peu de gens qui en France s'intéressent justement à la politique de réduction des risques. Mais en l'espace de 15 ans, on l'a vu pour les usagers de drogues intraveineuses, l'héroïne principalement, on a vu que la politique de réduction des risques, ça a permis de limiter justement le nombre de morts par overdose, le nombre de contaminations par le sida ou d'autres hépatites.
C'est
et
ça.
Et cette politique de réduction des risques, aujourd'hui, elle fait office de politiques positives qui peuvent être mises en place par les Nations Unies. Et donc aujourd'hui, avec le Secours Vert, on va essayer justement de promouvoir la réduction des risques dans le champ de la consommation du cannabis. Voilà, donc vaporiser, inhaler les vapeurs de THC, c'est bien meilleur que de mélanger du mauvais shit avec du tabac.
Ouais, mais après, voilà. c'est encore le truc pharmaceutique avec les pulvérisations.
Alors là, tu mets le doigt sur un autre sujet, parce que pour le coup, c'est vrai que dans les labos pharmaceutiques, eux, ils essaient de mettre en place des sprays, par exemple, 100% de THC, et malheureusement, ils n'obtiennent pas de très très bons résultats. Mais bon, on est encore vraiment dans le champ thérapeutique pour des personnes qui sont atteintes de maladies et qui, pour certaines, ont besoin d'avoir, on va dire, une dose régulière d'un produit, si possible, le moins trafiqué possible. Avec la vaporisation, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que les personnes pourraient utiliser cet appareil pour s'automédiquer. Mais là, il y a la question du titrage. Enfin bon, c'est très technique.
Oui.
Et franchement, ce que j'essaie de promouvoir, l'utilisation d'un vaporisateur, bon, on a du mal à le concevoir parce que quand on est habitué à fumer, par exemple, on aime bien avoir une grosse volute de fumée qui nous brûle les poumons, et que là, la vaporisation, ça nous change. Il n'y a plus l'effet de fumée, il n'y a plus que l'effet de vapeur, mais franchement, c'est bien plus efficace. Voilà. Ouais. Et en tout cas, on va mener quelques opérations de sensibilisation, donc je te tiendrai au courant.
Bah oui, et puis t'hésites surtout pas à revenir parler sur les ondes pendant que justement les radios associatives locales et sans publicité existent encore. Comme on a la chance d'en avoir ici à Périgueux, et Fabrice à la technique et tout ça. Et ben. Farid, je te remercie énormément pour cette émission.
Je remercie Alexia, je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission, cet espace de liberté que tu as su créer, Alexia. Bonne continuation, et puis on se tient au courant pour revenir le plus régulièrement possible sur ce thème et faire le suivi.
Et tu peux nous redonner l'adresse du site de Cannabis Sans Frontières, s'il te plaît?
Alors, cannabissansfrontières.org, cannabissansfrontières tout attaché.org, et puis sinon secoursvert.net, secoursvert.net.
Très bien, voilà. Parfait. Et voilà, on se quitte avec Sarklo speaking. Au revoir à toutes. Allez. Et n'oubliez pas, 2010, année du cannabis. Allez, voilà. Bonne fumette à tout le monde. Ciao.
En édition spéciale.
Moi, je suis ministre du président de la République et du Premier ministre dans la police. Et ils en ont marre. Ça m'a obligé à changer, à réfléchir. Vous rendez compte? Est-ce qu'on croit que c'est mon devoir de faire ça? C'est inhumain. Vous rendez compte? Vous croyez que j'ai que ça à faire? De mon côté, moi, je pense que la question qui est posée est simple. Qu'est-ce qui se passe en France? Le nombre de prostituées, de gauche comme de droite, a été multiplié par 10 ces 5 dernières années, dans la police. Je pense que c'est juste. C'est une décision personnelle et je l'assume pleinement. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Le cœur de ma politique, c'est l'argent facile, le racolage actif, global et total, sans respecter aucune des règles, ni aucun risque. Je vais même vous dire mieux, c'est un style de vie. Et à ceux qui me demandent d'ouvrir des maisons closes, que la France financera, je veux dire à ceux qui nous écoutent, c'est ce que nous allons faire. Et je pense que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Parce que ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'essaye de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais même vous dire mieux. Qu'est-ce que nous allons faire? On va truffer les autoroutes d'équipements technologiques modernes pour qu'il y ait deux fois plus de morts sur les routes en France que chez les autres pays européens, par exemple l'Espagne ou par exemple l'Angleterre. C'est ce que nous allons faire. La police, c'est la police des petits caïds, l'école du crime. Je reconnais bien volontiers cela. Vous savez, bon, il faut que les Français comprennent, ça date de Vichy. Je pense que c'est juste. Le cœur de ma politique, c'est de ne pas respecter les droits de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous le dis très simplement, c'est le règne de l'arbitraire. C'est une réalité aujourd'hui. La loi Sarkozy, elle conduit à la violence, elle conduit à l'intolérance, sans respecter aucune des règles. Ce qui fait que maintenant, je veux dire aux Français, de gauche comme de droite, il n'y a pas de place pour vous. Je vais même vous dire mieux. Je vais laisser moi aussi les banlieues devenir des zones de non-droit, où les trafiquants de drogue, où les gangs, où les bandes tiennent l'eau du pavé. On laisse faire tout. Les ravages de la violence, les ravages de la drogue, les ravages de la brutalité, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi se draper dans sa vertu offensée? Je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Parce que ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. J'ai eu des hauts et des bas, beaucoup de bas. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je dit? J'ai le regret de constater que j'ai peur. C'est normal. C'est la drogue. C'est un problème. On me dit souvent, mais t'es pas fatigué avec tout ça? D'abord, je pense pas que je suis énervé. C'est la drogue. Je reconnais bien volontiers cela. Vous savez, c'est une décision personnelle et je l'assume pleinement. C'est pas pour m'amuser, c'est normal, c'est un style de vie. Non, parce que les mots ont un sens, voyez-vous. Et je voudrais qu'on m'explique au nom de quoi la drogue, ça vous bouffe la vie. Vous savez, la drogue, ça a toujours été, depuis ma plus jeune jeunesse en quelque sorte, ça m'a beaucoup marqué. Il faut assumer. Je vais même vous dire mieux. Ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. J'ai peur de Sarkozy. Et ils en ont marre. De gauche comme de droite, dans la police. L'argent facile. Sans respecter aucune des règles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. C'est ce que nous allons faire. Bon, il faut que les Français comprennent. La police, ça date de Vichy. Ma politique, c'est de ne pas respecter les droits de l'homme. C'est le règne de l'arbitraire. La loi Sarkozy, elle conduit à l'intolérance. De gauche comme de droite. Il n'y a pas de place pour vous. J'ai peur. C'est la drogue. C'est la drogue. T'es pas fatigué, Sarkozy. Sarkozy. Ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. J'ai peur de Sarkozy.